et nous entendons donc les lectures maintenant.
Première épître de Jean, chapitre 2, versets 7 à 11. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que je vous avais entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Une deuxième lecture en Lévitique, chapitre 19, versets 17 et 18. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. La prochaine lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, les versets 37 à 40. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Puis, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Puis encore dans la deuxième épître selon Jean, ou de Jean, les versets 4 à 6. Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Kyria, ce que j'ai écrit ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement, je te demande que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement.
Lorsque nous marchons dans la nuit, nos yeux s'habituent petit à petit à l'obscurité. Et s'il fait vraiment nuit, comme au fond d'une grotte ou dans une cave fermée sans fenêtre, eh bien nous ne voyons même plus la différence si nous ouvrons ou fermons les yeux. Eh bien ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs pour y mettre progressivement la lumière afin que nous puissions voir et comprendre sa parole. Et que tous ici, nous marchions dans la lumière de l'Évangile. Nous aimons étudier la Bible et nous laisser conduire par elle. Et actuellement, lorsque je prends la parole ici, nous cheminons dans la première épître de Jean. Le disciple bien-aimé de Jésus, Jean, qui devait être jeune quand il était avec Jésus, son adolescence sûrement, il était 3 ans avec Jésus, dans sa présence, et bien des années ont passé depuis ce temps. Beaucoup, même peut-être tous les autres du groupe des 12, sont morts. Jean est âgé et il a un message à transmettre. aux futures générations. Il se rend compte de l'importance de vivre en communion avec Dieu, de se détourner de son péché et d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Voilà pourquoi il écrit cette première épître de Jean. Et le but principal de cette lettre, nous l'avons déjà vu ensemble, je le redis, puisque la pédagogie, c'est la répétition, qu'on s'en souvienne, c'est donc dans 1 Jean 5, au verset 13, où nous pouvons lire « Cela je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Nous avons commencé le périple dans cette lettre, et donc Jean a commencé cette lettre en parlant de la pureté de Dieu, qui est lumière et dans lequel il n'y a aucune ténèbre. Il a souligné l'importance de la communion avec Dieu, qui est possible par le sang de Christ qui purifie ceux qui reconnaissent leur péché, le confessent et s'appuient sur leur avocat et victime expiatoire Jésus-Christ. Tout ça, c'est le premier chapitre de 1 Jean. Et si l'apôtre bien-aimé de Jésus veut conduire à l'assurance de la vie éternelle, il donne les moyens de reconnaître, mais qui sont unis à Christ? Est-ce que je peux savoir que je suis uni à Christ ou non? Et lors de la dernière prédication, nous avions parlé du test moral que Jean nous donne pour la première fois dans les versets 3 à 5 du chapitre 2 de 1 Jean et qui reviendra par la suite. Est-ce que vous vous souvenez de ce test? Le test, en fait, vous pouvez regarder le verset 3. « À ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. » Si nous gardons ses commandements. Il n'est pas possible de dire que nous sommes chrétiens, selon la Bible, si nous n'avons pas pour habitude de garder les commandements de Dieu, si nous ne cherchons pas à les vivre, et si lorsque nous les transgressons, nous ne nous repentons pas, ou ne sommes pas repris de notre cœur. Si vous pouvez pécher et que cela ne vous reprend pas, il y a des questions à se poser. Alors, il n'est pas question de vivre parfaitement la loi. Personne ne le pourrait. Jésus l'a fait. Et il l'a fait pour nous le donner, c'est vrai. Mais le chrétien va chercher à vivre selon la grâce et la force de Dieu, en communion avec sa volonté. C'est pour ça qu'il vit selon ses commandements. Sinon, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est en communion avec Dieu si on ne vit pas ce que lui, il dit? C'était donc le premier test. Nous reconnaissons que nous avons connu Dieu si nous gardons ses commandements. Et voici aujourd'hui le deuxième test qui est lié au premier. Il est lié à un commandement particulier qui englobe tous les autres. Mais de quel commandement s'agit-il? Jean ne présente pas le commandement de manière explicite dans le texte. Il en parle de manière à ce que l'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Il commence par dire « c'est pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien ». Ce sera notre premier point d'ailleurs, que j'appellerai le commandement ancien. Ensuite, il continue en disant « c'est un commandement nouveau ». Notre deuxième point sera la nouveauté du commandement, pour ensuite appliquer ce test, comme notre troisième point le dira, l'application du test « amour ou haine, lumière ou ténèbres ». Mais à quel commandement Jean fait-il allusion? Alors il me semble que le texte de Jean, que nous avons entendu tout à l'heure, nous aide à trouver la bonne réponse. Je vais vous le relire pour savoir de quel commandement il parle. Puisque dans 1 Jean, il parle d'anciens, de nouveaux commandements, mais ce n'est pas vraiment écrit de quoi il s'agit, bien que le test nous aide à comprendre déjà, c'est vrai, dans 1 Jean. Mais 2 Jean nous dit ceci, donc 2 Jean, versets 4 et 5. « Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu. » Donc ça fait référence au même commandement que dans 1 Jean. Hein. « Selon le commandement que nous avons reçu du Père, et maintenant, Kyria, ce que je t'écris, ainsi, ce n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns les autres. » Voilà le commandement. Nous aimer les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Donc ce texte nous permet de dire que dans 1 Jean, nous parlons du commandement de nous aimer les uns les autres. C'est d'ailleurs ce commandement que nous trouvons quand si je vous dis, dans la Bible, on parle d'un nouveau commandement. Vous pensez à quoi? on pense tout de suite à Jean 13. Parce que c'est le seul endroit où il est parlé de ce nouveau commandement que Jésus donne à ses disciples. Hein, où il dit clairement, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc le commandement dont parle Jean dans l'épître que nous étudions ce matin, hein, le commandement dont parle Jean dans l'épître que nous étudions ce matin, est clairement l'amour pour l'autre. Ça va ? Maintenant qu'on a ça, ben on va pouvoir entrer dans nos différents points. Alors, on va voir pourquoi il appelle cela un commandement ancien. Pourquoi il dit qu'il est ancien, hein ? Relisez avec moi le verset 7 de Jean 2, où il dit « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. » Ce n'est pas nouveau. Ah, la poursuite de la nouveauté. La poursuite de la nouveauté. Ce n'est pas nouveau non plus. Combien souvent nous entendons que ce qui est nouveau est meilleur. Et les gnostiques du temps de Jean, justement, le disaient également. On a trouvé quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, de plus proche de Dieu. De nouvelles expériences, de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de servir Dieu. Et Jean les prend ici à contre-pied et il leur dit que ce n'est pas un commandement nouveau qu'il leur écrit. C'est un commandement qui existait déjà au début de l'évangile et au début de leur foi chrétienne. L'amour les uns pour les autres n'est pas nouveau. Et Jésus, lorsqu'il répond aux pharisiens à propos du plus grand commandement, hein, va puiser dans les textes de l'Ancien Testament. Et il cite Lévitique 19, 17, 18, qui parle déjà de cet amour-haine. Hein, Jésus, lorsqu'il répond aux pharisiens à propos du plus grand commandement, va puiser dans les textes de l'Ancien Testament, il cite Lévitique 19, 17 et 18, qui parle de cet amour-haine. Je vous le relis. Où il a dit, « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. C'est à ce texte que Jésus fait référence lorsqu'il dit que le deuxième commandement, après le premier qui est d'aimer l'Éternel son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, que le deuxième c'est aime ton prochain comme toi-même. Il reprend ce texte de Lévitique. Et ce commandement d'aimer n'était d'ailleurs pas uniquement dirigé vers les membres du peuple, comme les pharisiens le disaient. Vous savez, Jésus, il dit dans le serment sur la montagne, « Vous avez entendu qu'il a été dit, ça veut dire, c'est ce qu'on vous enseigne, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Ça, c'est ce qui était dit. Et Jésus dit cela pas pour dire qu'il est d'accord. Il va dire juste après quelque chose d'important. Mais avant, j'aimerais vous montrer que Jésus le corrige. Et il cite l'enseignement des chefs religieux qui n'est pas l'enseignement de la Torah. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Tu haïras ton prochain. Je vais vous le prouver. Par exemple, dans Exode 23, les versets 4 et 5. Lorsque tu rencontreras le bœuf de ton ennemi ou son âne qui s'est égaré, tu le lui ramèneras. Ce n'est pas haïr, ça. Lorsque tu verras l'âne de celui qui a de la haine pour toi, succomber sous sa charge et que tu hésiteras à le décharger, tu le déchargeras avec lui. Ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Dans Proverbe 24, 17, « Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe, et quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. » Ou encore dans Proverbe 25, 21, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. » D'ailleurs, ce texte est en lien avec Romains 12 que nous avons étudié jeudi passé, où nous avons vu dans Romains 12, de 9 à 21, 26 facettes de l'amour. 26, juste dans ce petit passage. Jésus reprend ces enseignements déjà existants dans l'Ancien Testament et il dira, à la suite de ce texte, vous avez entendu qu'il était dit « Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi », il dit ceci à la suite, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et tout cela n'est pas nouveau. Il n'y a pas d'innovation ici. Cela s'appuie sur l'enseignement donné par Dieu depuis même le début de l'humanité d'ailleurs. La vérité de Dieu est stable, les amis. Ça, c'est tellement rassurant. La vérité de Dieu est stable. Elle est bonne. Elle ne change pas et elle restera toujours la meilleure. Hein, la vérité de Dieu est stable, elle est bonne, elle ne change pas et elle restera toujours la meilleure. Nous n'avons pas à chercher quelque chose de nouveau pour trouver quelque chose de bon, de meilleur. Puisque nous l'avons reçu dès le commencement, le meilleur. Vivre l'amour, c'est accomplir les commandements de Dieu. Accomplir les commandements de Dieu, c'est aimer Dieu. On va prendre quelques instants maintenant, juste pour réfléchir à cette notion des commandements et de l'amour. Comment ça se passe? Comment ça se vit? Parcourir quelques éléments de la table de la loi en lien avec le prochain. C'est par amour pour les personnes en autorité prévues par Dieu que nous vivons le cinquième commandement. Lorsque nous aimons nos parents, nous les honorons. C'est lorsque nous ne les aimons pas que nous ne les honorons pas. Mais si nous les aimons, nous les honorons. La vie des autres nous est précieuse, car nous les aimons comme nous-mêmes, c'est ce que Dieu nous demande. Et si nous aimons les autres comme nous-mêmes, si leur vie est précieuse, on ne touchera jamais à la vie de l'autre. Donc nous vivrons le sixième commandement. Nous aimons notre prochain, donc nous ne pratiquons pas l'adultère. Nous aimons notre conjoint, donc nous ne pratiquons pas l'adultère. Nous aimons le conjoint de l'autre avec qui nous pratiquerons, donc nous ne pratiquons pas l'adultère. Nous aimons même notre futur conjoint, ainsi nous ne pratiquons pas l'adultère ou la fornication. Et nous aimons le futur conjoint de notre prochain. Voilà pourquoi nous pratiquons le septième commandement. C'est par amour pour notre conjoint ou notre futur conjoint ou pour le conjoint de l'autre et pour l'autre que nous respectons le septième commandement. Vous voyez, tout est lié à l'amour. Si nous aimons quelqu'un, on ne va pas le priver de ses ressources ou lui prendre des choses qu'il ne nous a pas données. Sinon, nous ne manifestons pas de l'amour envers notre prochain. En fait, nous vivons le huitième commandement, nous ne volons pas. Mais ce n'est pas parce que je ne dois pas voler. J'aime l'autre, donc je ne vais pas lui prendre des choses, vous voyez? Une petite question. Si quelqu'un vous dit quelque chose de faux, est-ce que vous considéreriez que c'est un acte d'amour envers vous? Ou qu'il va colporter des choses qui sont faux à votre égard? Mais non, évidemment pas. Il n'y a que la vérité qui puisse s'accorder avec l'amour. Donc en aimant, nous ne porterons pas de faux témoignages. Nous vivons le neuvième commandement. Et pour terminer ce petit tour des commandements, lorsque nous aimons quelqu'un, nous nous réjouissons des dons qu'il a reçus. On n'est pas en train de les convoiter. On s'en réjouit et on l'encourage à les utiliser d'ailleurs. On se réjouit de l'énergie qu'il a. On se réjouit des capacités qu'il a reçues. Parce que la capacité, l'énergie, les biens même que l'autre a reçus, il les a reçus en tant que gestionnaire. Donc on va l'encourager à bien les gérer. Si nous aimons cette personne, il n'y a pas l'ombre d'une convoitise. Nous vivons le dixième commandement, vous voyez? Donc tout est lié, je m'arrête là. Hein, mais l'amour n'est pas un commandement nouveau, il est ancien et il restera toujours d'actualité. Donc rappelons-nous chaque jour que la base de la vie selon la volonté de Dieu, c'est de pratiquer ses commandements. Et c'est l'amour pour lui et pour les autres. Comme Jésus le résume dans Matthieu 22. Peut-être que vous pourriez mettre un petit post-it sur votre miroir où vous allez chaque matin, puis de dire, voilà, aimez Dieu et les autres. C'est le résumé de toute notre vie, en fait. Sur votre miroir, ou bien on pourrait, je ne sais pas, le mettre sur le frigo, ou bien sur l'écran d'ordinateur. Passons maintenant au paradoxe que Jean nous donne. Ah, au paradoxe, c'est un mot qui n'est pas forcément connu. C'est quoi un paradoxe? Un paradoxe, c'est deux vérités qui semblent se contredire, mais qui en fait apporte deux éclairages complémentaires. Et on a un paradoxe ici. Parce que Jean vient de dire qu'il parle d'un commandement qui est ancien, et j'ai cherché à vous le prouver, à comprendre ce que ça voulait dire. Et voilà maintenant que dans le verset 8, il dit, d'autre part, c'est un commandement nouveau. Oui, mais alors, il est nouveau ou bien il est ancien? C'est un paradoxe là. Deux choses qui semblent contradictoires, mais en fait qui sont deux vues, deux éclairages complémentaires de cette vérité. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc verset 8. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Pourquoi dit-il maintenant que ce commandement est nouveau, alors qu'on vient de démontrer qu'il est ancien? Voilà, j'entends déjà ceux qui disent, ben voilà, la Bible se contredit. Mais non, elle ne se contredit pas. Il y a effectivement quelque chose de nouveau. Il y a effectivement quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne s'est encore jamais passé avant. Quelque chose qui ne s'était jamais passé dans l'Ancien Testament. C'est la venue de Jésus-Christ sur terre. Personne avant la venue de Jésus-Christ n'a manifesté l'amour de manière incarnée comme il l'a fait. Personne. C'est nouveau ça. Ça c'est nouveau. Personne avant la venue de Jésus-Christ n'a manifesté l'amour de manière incarnée comme il l'a fait. Sa famille a pu le voir. Ses disciples ont pu le suivre et l'observer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 3 ans. Jésus est venu accomplir l'amour parfait et se donner jusqu'à la mort. On n'avait encore jamais vu ça. Ça c'est nouveau. Jean dira plus tard en 1 Jean 3,16 « À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. » Jésus, et ça c'est ce qui est nouveau maintenant, est la référence et l'accomplissement de l'amour parfait. Voilà. Jésus est la référence et l'accomplissement de l'amour parfait. Quand je parle d'amour, il y a peut-être un texte qui vous vient, et d'ailleurs jeudi soir que j'ai dit on parle d'amour, ben, tout de suite un texte est venu, c'était 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. Et Jésus l'a complètement, totalement vécu. Je vais vous lire ce texte et pensez à Jésus-Christ. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Vous avez pensé à Christ là? C'est Christ qui a parfaitement vécu tout cela. Avant Jésus, personne n'avait vécu de manière si parfaite sur cette terre. Attention, l'amour existait déjà avant. Dieu, qui est amour, était déjà là dans l'Ancien Testament. Il l'a déjà manifesté. Un peuple rebelle qui l'accueillait encore toujours quand il revenait à lui. Et même, parfois, qu'il protégeait, alors même qu'il n'était encore pas revenu à lui. Non, l'amour de Dieu est déjà là dans l'Ancien Testament, évidemment, bien présent. Mais avec la venue de Jésus, nous avons une manifestation d'amour jamais égalée. C'est ça la nouveauté. C'est pour cela que ce commandement est devenu nouveau. Parce que Jésus a dit à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est nouveau ça, parce qu'il n'était pas là avant. Comme je vous ai aimé. C'est un peu comme... Allez, limiter l'illustration, j'espère qu'on comprendra, mais... C'est comme la venue de l'électricité. Avant l'électricité, bon, faut imaginer, mais... on pouvait éclairer avec des lampes. Il y avait des lampes à huile, des lampes à pétrole, des bougies. Hein. C'est vrai qu'il y avait l'exemple du soleil qui était déjà là. Comme Dieu, dans son amour, a toujours été là pour éclairer. Mais lorsque l'électricité est arrivée, il a été possible de faire des lumières en grande quantité et des spots très puissants. En fait, l'idée est toujours la même, c'est celle d'éclairer. Mais maintenant, avec l'électricité, l'éclairage a pris une dimension toute différente. Comme la venue de Christ, qui d'ailleurs vit en nous par son esprit. Si Jésus, par sa vie, démontre l'amour et apporte une nouveauté au commandement, un autre élément nouveau est lié à cela, il est également présent. C'est l'application de cet amour dans nos vies par le Saint-Esprit. Puis je dois vous dire, c'est hier que ça m'a frappé, ça. J'avais jamais vraiment vu ça. Donc si Jésus, par sa vie, démontre l'amour et apporte une nouveauté au commandement, un autre événement est lié, il est également présent, c'est l'application de cet amour dans nos vies par le Saint-Esprit. L'application de l'amour de Christ dans nos vies par le Saint-Esprit. Ça, il n'y avait pas dans l'Ancien. Pour reprendre l'image précédente, nous sommes maintenant branchés à l'électricité. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne vivait pas dans le croyant. même s'il agissait déjà en eux, ça c'est sûr. C'est après le départ de Jésus que le Consolateur, le Saint-Esprit, est donné à tous ceux qui sont en Christ. Le commandement de l'amour est donc aussi de nouveau dans son application dans nos vies. Et cela m'amène à l'application de ce point ici, qui est sous forme de question. La vie de Jésus a-t-elle déjà changé votre compréhension de l'amour ? La vie de Jésus a-t-elle déjà changé votre compréhension de l'amour ? Et est-ce que son amour est appliqué dans vos vies par le Saint-Esprit ? Il est parlé de lumière dans le texte ici, hein, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Donc c'est Christ cette lumière, et on pourrait dire que sa première venue, c'est comme le matin, vous avez des fois l'aube et vous avez un rayon lumineux. On ne voit pas encore le soleil, mais on voit déjà le rayon. Mais c'est un petit peu ça qu'on voit avec Jésus-Christ qui a vécu cela. Et quand il reviendra, eh bien cet amour sera manifesté dans sa totalité. C'est à peu près inimaginable. Parce que déjà maintenant, quand on commence à saisir l'amour de Christ, de ce qu'il a fait pour nous, en donnant sa vie pour nous, c'est déjà juste énorme. Mais alors là, son amour sera manifesté de manière totale. J'aime vous dire, et puis je continuerai à aimer vous le dire, j'aime vous dire que je me réjouis qu'il n'y ait plus de péché au ciel. Ça va être juste génial. Mais ce que j'ai peut-être encore pas assez réalisé, puis peut-être que ça vient petit à petit, même en vous le disant maintenant, mais je devrais me réjouir aussi que je vivrai vraiment dans l'amour total de Dieu. T'imaginez ? On n'imagine pas bien, mais c'est magnifique. C'est vraiment ça. Et donc Jésus-Christ est cette lumière qui est déjà venue hein, dans ce monde et qui va être pleinement manifestée. L'amour manifesté par Christ, qu'il met dans nos cœurs, manifesté envers les autres dans la foi, sera donc le test de la foi que Jean nous propose ici dans les versets 9 à 11, qui fait l'objet de notre dernier point. Donc l'application du test, amour ou haine, lumière ou ténèbres, les versets 9 à 11 que j'aimerais relire avec vous. Vous pouvez regarder dans vos Bibles. Donc juste avant cela, j'aimerais quand même aussi un élément important, avant de le lire. Pour celui qui est en Christ, il ne doit pas avoir peur de ces textes. C'est un texte qui devrait le réjouir, l'aider à comprendre qu'il appartient à Dieu. Celui qui aime, donc qui manifeste concrètement cet amour, qui souhaite même aimer plus, n'est pas disqualifié parce qu'il n'aime pas encore autant qu'il le souhaiterait. D'accord ? Quand on aime et qu'on aimerait aimer plus, c'est plutôt une preuve que l'amour est déjà là. D'accord ? Donc si vous dites « j'aime pas encore assez les gens », c'est pas pour ça que vous n'avez pas l'amour que Dieu met dans vos cœurs. Ok, alors lisons ce texte. « Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. » Nous avons dans ces trois versets un postulat de base, donc le test, hein, au verset 9, un exemple positif et un exemple négatif. C'est les trois choses qu'on a ici. Et pour chaque exemple, l'exemple positif et l'exemple négatif, nous avons ce que cela signifie et quelles sont les conséquences. Jean faisait face à des personnes qui prétendaient être dans la lumière de la connaissance. Nous en avons parlé la dernière fois en parlant de la connaissance de l'intelligence et la connaissance de l'émotion. Vous vous souvenez. Jean indique que la connaissance de Dieu, cette relation proche, cette communion avec Dieu, aura en fait des implications qui démontrent cette communion. La communion avec Dieu amène à aimer ceux qui sont en communion avec lui. Oui. Donc la communion avec Dieu amène à aimer ceux qui sont en communion avec lui. Et c'est le postulat de base hein, qui est donné ici au verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Mais c'est clair. La communion avec Dieu amène la communion avec ceux qui sont en communion avec lui. C'est aimer son frère. Et comprenons bien, nous ne parvenons pas à la lumière en aimant nos frères. Ce n'est pas un moyen, c'est une conséquence. Le moyen, c'est Christ. Cette communion qu'on a avec Dieu par Christ. Et la conséquence, c'est la communion avec les autres. C'est comme le mouvement. Je ne bouge pas mon bras pour avoir de la vie dans ce bras. C'est parce qu'il y a de la vie que je peux le bouger. Vous voyez ? C'est parce que je suis dans la lumière de la communion avec Dieu que j'aime mon frère. Si je n'arrive pas à bouger mon bras du tout, c'est qu'il n'a pas de vie. Et puis je peux prétendre tout ce que je veux. S'il ne bouge pas, il n'y a pas de vie. Donc prétendre être chrétien en communion avec Dieu et haïr un autre chrétien en communion avec Dieu, ou pour leur dire dans des termes peut-être plus compréhensibles, prétendre être chrétien, être en communion avec Dieu et ne pas pouvoir aimer un autre chrétien en communion avec Dieu, c'est comme prétendre que mon bras a la vie alors que je ne peux pas le bouger du tout. La prétention qui n'est pas accompagnée par la confirmation de ce qui est vécu, donc la prétention c'est ce qu'on dit être ou faire, la prétention qui n'est pas accompagnée par la confirmation de ce qui est vécu est un mensonge. C'est un mensonge. C'est de l'aveuglement. C'est marcher dans les ténèbres, c'est un bras sans vie. Donc la prétention qui n'est pas accompagnée de la confirmation de ce qui est vécu est un mensonge, c'est de l'aveuglement, c'est marcher dans les ténèbres, c'est un bras sans vie. Et Jean insiste en donnant un exemple positif et un exemple négatif. L'exemple positif, c'est au verset 10. « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, il ne risque pas de tomber. » Aimer son frère signifie demeurer dans la lumière. C'est demeurer dans la communion avec celui qui a créé mon frère, celui qui a racheté mon frère par son sang. Saviez-vous que tous vos frères et sœurs en Christ, ils sont dans la foi, Dieu a donné sa vie pour eux. Donc, il a manifesté un amour qui est juste phénoménal. Donc, on a appelé à les aimer aussi ainsi. Être en communion avec Jésus-Christ et avec tous ceux qui sont en communion avec lui. Et quelle est la conséquence? Eh bien, le texte dit ici, c'est que le chrétien ne risque pas de tomber. C'est magnifique ce texte. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, donc il demeure dans cette communion avec Dieu, et ne risque pas de tomber. Pourquoi ? Parce que Dieu utilisera la communion du chrétien avec les autres pour le garder dans la communion avec lui. Dieu utilisera la communion les uns avec les autres pour le garder dans la communion avec lui. Parce que si quelqu'un est en train de s'éloigner du Seigneur, ceux qui sont en communion avec lui vont dire « Hé, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pourquoi tu t'éloignes ? Reviens. » Et ainsi, Dieu utilise la communion les uns avec les autres pour garder la communion avec cette personne. Et lorsque celui qui est en communion avec quelqu'un d'autre et le voit s'éloigner, il va le reprendre en réfléchissant lui-même aussi que celui qui est debout prenne garde, évidemment. On a toujours cette attitude. Si je regarde mon frère et que je lui dis quelque chose, et il faut le faire, quand on voit quelqu'un qui pêche, il faut le faire. Et en même temps, il faut examiner son propre cœur et se repentir aussi si nous pêchons. Donc lorsque nous reprenons un frère, une sœur, nous le reprenons dans ce désir qu'il reste dans la communion avec Dieu et ainsi dans la communion avec ceux qui sont en communion avec Dieu. C'est ainsi que nous nous aidons à ne pas tomber. J'en veux que ces lecteurs comprennent, et particulièrement les personnes attirées par les gnostiques, qu'ils ne peuvent pas connaître Dieu en étant déconnectés des relations avec les autres. Ça, c'est très à la mode, hein. Je peux vivre la foi sans aller à l'église. C'est pas biblique. Celui qui aime son frère demeure... Donc, aimer son frère, c'est être en communion. On ne peut pas être en communion avec son frère si on n'y est pas ensemble. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Après avoir donné un exemple positif et encourageant, il donne aussi un exemple négatif pour que cette vérité s'ancre en nous. Il veut vraiment qu'on le comprenne. Verset 11. « Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. » Lorsque quelqu'un est longtemps dans un endroit sombre, longtemps, il est totalement ébloui, même aveuglé lorsqu'il est face à la lumière. Il est longtemps dans un endroit sombre, et il y a des personnes qui ont eu des problèmes de vue à long terme par rapport à ça, d'ailleurs ça c'est arrivé. Donc lorsque quelqu'un reste longtemps dans un endroit sombre, il est totalement ébloui et aveuglé lorsqu'il est mis face à la lumière. Malgré que la lumière éclaire en fait autour de lui, il ne voit rien parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles, pour reprendre l'illustration. Heureusement que lorsque nous sortons d'une cave sans lumière ou d'une grotte sans lumière, nos yeux petit à petit se réhabitue à la lumière. Et c'est la grâce de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs également qui le fait, qui ne nous rend pas aveugles, mais qui nous rend de nouveau bienvoyants. Que signifie donc avoir de la haine pour son frère? Parce qu'il est dit que celui qui hait son frère, hein, celui qui a de la haine, ça veut dire quoi? Alors le terme utilisé pour haine dans le texte est miséo, ou qui est à l'origine du terme misogyne, c'est-à-dire qui n'aime pas les femmes, ou bien misandre, qui n'aime pas les hommes. Vous avez peut-être jamais entendu ce mot, mais il existe. Qui n'aime pas les hommes, qui a de la haine. Mais souvent, quand on pense à ce terme de haine, on voit quelque chose de très violent. Donc, ça ne nous concerne pas vraiment. Mais c'est quoi la haine? J'aimerais donner une définition. C'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un, à se réjouir du mal qui lui arrive, avoir une aversion profonde. Mais attention, le simple fait de ne pas aimer est le chemin qui peut conduire jusqu'au meurtre, comme Caïn l'a démontré. J'aimerais vous donner quelques synonymes de haine. Ce n'est pas très joli ce que je vais vous dire maintenant ici. Mais ça peut nous toucher, parce que ça peut toucher ce qui est dans notre propre vie. Donc quelques synonymes de la haine pour savoir ce que cela signifie. De l'animosité, de la malveillance, de l'inimitié, du ressentiment, de l'agressivité, de la rancune, de l'antipathie, de la colère, de l'emportement, de la véhémence, de l'aversion, de l'antagonisme, de la répulsion, du dégoût, de la froideur, de la dévastation, de l'exécration, de l'hostilité, de la rancœur, de la répugnance. Celui qui vit ces choses-là et qui ne s'en repent pas est dans les ténèbres. Oh, il y a un espoir. C'est qu'il y a la repentance. Celui qui se repent n'est pas dans les ténèbres. Il est dans la lumière. Celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va. Ses yeux s'habituent aux ténèbres et auront bien de la peine à faire face à la lumière. Si quelqu'un ici prétend être chrétien, mais qu'il n'arrive pas du tout à aimer les autres chrétiens, si je prends le texte ici, je dois dire qu'il n'est pas chrétien. Si quelqu'un ici prétend être chrétien, mais qu'il n'arrive pas du tout à aimer les autres chrétiens, il n'est pas chrétien. L'Esprit de Christ qui donne cet amour n'est pas en lui. En conclusion, j'aimerais encourager ceux qui ont été transformés par Dieu. Regardez dans votre cœur, et je suis certain, puisque la Bible dit, que Dieu vous a mis de l'amour pour les frères et sœurs. Oui, nous devons progresser. Oui, ce n'est pas toujours facile, évidemment. Mais il l'a mis dans notre cœur, cet amour. Et s'il y a du progrès qu'on aimerait encore faire, c'est que le progrès se base sur quelque chose d'existant. Et Jean veut te dire à toi qui es en Christ, continue à grandir dans l'amour pour ton frère et demeure dans la lumière, c'est-à-dire cherche la communion afin de ne pas tomber. Peut-être ce matin te rends-tu compte que tu n'as jamais vu cet amour particulier pour ceux qui sont dans la communion avec Dieu dans ton cœur. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Approche-toi de celui qui peut placer cet amour sacrificiel dans ta vie. Par la repentance pour tes péchés, la foi en Christ par qui cet amour est venu, tu pourras entrer dans ce chemin qui glorifie Dieu. J'aimerais terminer en faisant travailler un peu votre imagination. Ça va, vous avez encore l'imagination, on va l'utiliser maintenant, puis après ça sera fini. Hein? Imaginez que nous nous aimions tous d'un amour sincère, profond, affectueux, rempli de bienveillance, de désir de bien de l'autre. Et vous pouvez imaginer chaque relation dans l'Église, donc chaque personne avec chaque personne. Un amour sincère qui grandit dans la direction de l'amour de Christ. Mais quand on imagine ça, c'est une merveille. C'est une merveille. Parce que tout ce que Dieu demande est une merveille. C'est cela, vivre le commandement ancien nouveau. C'est à cela que nous sommes appelés à attendre. Il est dit au verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. » Nous allons prier. Éternel, que ta parole est magnifique. Elle est vraie depuis longtemps et pour longtemps. Tes commandements sont bons. Et nous aimerions, Seigneur, aussi, ce matin, t'exprimer nos louanges pour l'œuvre de Jésus-Christ. Avant sa venue, tu avais parlé d'amour. Tu avais déjà manifesté un amour qui dépassait déjà toute imagination avec ce peuple rebelle. Mais Jésus-Christ est venu vivre cet amour ici-bas. Merci. Merci pour cette référence, pour ce modèle. Merci aussi parce qu'il l'a accompli pour que nous puissions venir à toi, pour que nous puissions être sauvés. Merci parce que non seulement il l'a accompli, mais le Saint-Esprit l'applique dans nos vies. Seigneur, nous te remercions, parce que par nos propres forces, nous n'arriverions pas à aimer nos frères et sœurs dans la foi, que nous ne choisissons pas. Mais Seigneur, dans ta grâce immense, par ton Esprit qui nous applique l'amour de l'Esprit dans nos cœurs, tu nous donnes la joie de découvrir l'amour pour nos frères et sœurs. Merci parce que non seulement nous pouvons le donner, mais nous pouvons aussi en bénéficier. Quelle grâce! Sois-en loué, béni, remercié et adoré. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.